바람에
Île d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie. Nous sommes là 10 jours à peine après les événements. Il est 6h30 du soir, la nuit vient de tomber sur la tribu de Gossana. On est juste à 4 ou 5 kilomètres de la grotte funeste. Pour celui qui, comme moi, débarque, tout peut sembler normal, surtout avec ces chants d'enfants. Et pourtant...
C'est la prière pour le manger.
Alors là, tous les enfants ont été mis, ils sont, je sais pas, une quarantaine à peu près, ont été mis autour de la table. C'est la manière communautaire de manger ici ?
De manger, c'est-à-dire d'abord, c'est tous les gosses en première.
La tribu mange toujours ensemble ? Toujours.
La tribu mange toujours ensemble depuis les événements. Hein.
Mais avant, non ? On mangeait chacun chez soi ?
Chacun chez soi, oui. Comment ? Dans la coutume, on mange toujours ensemble comme le jour des défunts et tout, oui.
C'est donc en raison des 19 morts que vous continuez là à manger tous ensemble.
Tous ensemble, c'est ça.
Ici, dans la tribu, les moindres détails de la vie quotidienne sont là pour rappeler ce que certains nomment les événements, d'autres le massacre ou la tuerie, d'autres encore, beaucoup plus pudiquement, l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Depuis bientôt un mois, les différentes versions se sont succédées. À chaque témoignage, son contre-témoignage, à chaque affirmation, son infirmation. Et de rapports secrets publiés en textes confidentiels diffusés, l'affaire est étalée au grand jour. De nombreux journalistes ont tenté, témoignage après témoignage, de retracer le film des événements. Et les zones d'ombre s'éclaircissent peu à peu. Affaire politique sur fond d'élection, ou terrible bavure de part et d'autre, ça, c'est une polémique dans laquelle je ne rentrerai pas aujourd'hui. En tout cas, le bilan est lourd. 25 morts, 19 Kanaks, 4 gendarmes et 2 militaires. L'instruction est en cours, mais là-bas, très loin des politiques et de la justice, à 20 000 km de la France, il y a une toute petite île qui n'est pas près de s'en remettre.
Là, actuellement, il y a 2 tribus qui sont là. Nous sommes rassemblés ici. Là, il y a des gens de l'autre tribu qui sont de l'autre côté, à Teuta. Mm-hmm. Donc, quand les gendarmes et les militaires sont passés à leur tribu, ils étaient obligés de se sauver dans les brousses, tout ça, pour venir ici, comme ça, on va se réunir. Et puis, il vaut mieux être rassemblés que d'être éparpillés partout. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça fait bientôt un mois qu'ils n'ont pas été chez eux pour voir leur bétail, leur cochon.
Pourquoi ils ont fui à ce moment-là ?
Parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, il n'y a que des femmes, il y a des vieux. Et avec le passage des militaires et des gendarmes, ils ont tout cassé, quoi. C'est pour ça qu'ils sont partis. Quoi.
Ils ont tout cassé là.
Oui, ils ont tout cassé chez eux.
Il y a des gens qui ont été interrogés.
Ah, beaucoup, et... beaucoup. Parce que la plupart des gens les hommes de la tribu ont été tous interrogés. Interrogés, garde à vue. Et... Torturé même.
Torturé comment ?
Ben avec des coups de crosse à coups de poing, avec des sortes de décharges électriques, là, des sortes de matraques, vous voyez. Quand ils appuient, ça...
T'as eu droit à ça, toi ?
Moi, j'ai eu 7 coups de ça, là. 7 décharges.
Et ça fait quoi, ça, ça ?
Ben, tu tombes par terre quand on branche ça ici. Mais...
Et qu'est-ce qu'ils cherchaient à savoir ? C'est où était la grotte ? La localisation de la grotte, ouais.
Quand on a été en garde à vue à la gendarmerie, c'était le jour même de l'attaque à la grotte. Donc ils faisaient l'attaque là-haut, puis ils nous entouraient ici pour prendre les hommes. On était 26.
C'est-à-dire qu'ils vous ont enfermés pendant tout le temps de l'attaque ? Pourquoi ?
On ne sait pas. On nous a pris, à, je crois, à 8h30. On nous a libérés le lendemain à 14h.
Mais là, on est tout près de la grotte, d'ailleurs. Là.
Bon, on est à 5 km, 4 km.
Et il y avait beaucoup de gens de ce village qui faisaient partie des ravisseurs. Il y en a eu pas mal aussi qui ont été de ceux qui ont été tués, qui faisaient partie de cette tribu-là.
Oui, il y a 2. Il y a 2 qui sont morts. Il y a 2 qui sont morts, c'est-à-dire un qui faisait partie des ravisseurs puis un qui était porteur de thé.
Quoi de là,
Quel que soit leur bord politique, rares en fait sont les familles qui n'ont pas été touchées par la mort d'un des 19 ou par l'occupation de l'armée. Ce vieil homme-là a 70 ans.
Vous avez été torturé comment ?
On a été me chercher ici, là. On m'a amené en haut, dans la petite maison, chez le vieux. Okay. Après, ils m'ont collé contre la maison, dedans. Après, il m'a mis un fusil ici, là, à pousser avec le fusil. Puis, il y a un autre qui vient, ils sont trois, ils me secouent, puis il y a un autre qui me tape le ventre avec un bâton. Puis au bout du bâton, il y avait une décharge. Il pique le ventre, il pique un peu partout. Puis il frappe avec le bâton. Après, il charge le fusil, il pique fort ici, puis il me dit de parler. Il me demande de parler. J'ai dit, je vais dire quoi? Je sais pas. Il demande après les otages. J'ai dit, je sais pas. Après, je lui ai dit, mais tu peux tirer? Puis il m'a dit, non, c'est trop beau. Tu vas mourir, il faut que tu souffres. Oui. Il y avait un autre qui est venu, il m'a foutu un coup de pied. Un coup de pied, et puis après il a pris la ceinture. Il y a une ceinture qui était accrochée sur le... Il m'a serré avec la ceinture, le cou. Puis après, il me relâche, il me demande de parler. Je dis toujours la même chose. Je vais dire quoi? Je sais rien. Après, il m'a serré 3-4 fois comme ça. La cinquième fois, il m'a serré longtemps jusqu'à ce que je suis évanoui. J'ai tombé par terre. J'ai resté un moment par terre. Après, je me suis relevé. Il y a un autre qui s'amène, il rentre à la porte avec un tamio qui fait une hache. Quoi. Après, à la porte, il me dit, bon, on va lui couper un doigt. Là, il me tire à la porte, il y avait celui-là au haut de la fenêtre. Il me pose la main. Puis il tient comme ça la hache, quoi, le tamio. Puis il dit, on va te couper un doigt, il faut que tu parles. Je dis, je vais te dire quoi? Mais si tu veux couper le doigt, tu coupes tout. Tu vas couper combien? Je peux couper tout. Après, il s'est arrêté. Il y a un autre qui m'a rappelé, puis il m'a appelé dur. C'est là qu'ils m'ont relâché.
Partout dans le monde, nous nous attachons dans Passerelle à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas toujours. Alors prenez ces propos d'aujourd'hui comme d'habitude, c'est-à-dire comme un document. Ce sont des témoignages exclusifs, encore jamais diffusés. Je les ai enregistrés il y a 3 semaines, alors que peu de gens savaient encore que des preneurs d'otages, témoins de l'assaut, avaient réussi à s'évader. Alors même si leurs propos sont invérifiables, ils ont, je vous le répète, la valeur de documents. Le premier, je l'ai rencontré en me rendant à la grotte. Une demi-heure de marche depuis la tribu de Gossana et j'arrive sur le site. Un site tabou où des offrandes de tabac sont faites aux ancêtres avant de pouvoir y pénétrer.
Bon, visiblement, ici on parle tout doucement, sans doute pour respecter la coutume, la tradition. Et celui qui est allé porter un morceau de tabac, déposé pour faire un coutume, revient. Voilà, qu'est-ce que... Là, un petit trou de tout petit trou de grotte. On voit encore des bouts d'étoffe, on voit des rangers. Tout ça dans des lianes, c'est une grotte absolument minuscule qui devait être un des avant-postes. Là, on descend à l'intérieur d'un trou. On n'a pas du tout l'impression qu'on puisse imaginer une grotte pour l'instant. On est en pleine végétation. Marche sur de la rocaille très poreuse qui ressemble à des sortes de coquillages. Qu'est-ce que tu me montres là?
La trace des balles.
La trace des balles, où ça?
Ouais.
Oui, un petit porteur de thé s'est arrêté. Oui. Effectivement, on voit sur les armes des traces de balles. Pour l'instant, Moi, je vois toujours rien qui ressemble à une grotte quelconque. Ah, voilà. On arrive un peu plus haut. On remonte, effectivement. L'endroit devait être particulièrement bien caché. Mais c'est tout petit. Ça paraît minuscule. Ah oui, c'est une grotte, pour faire une comparaison. Bon, une sorte de grotte minuscule de la forêt de Fontainebleau. Rien d'autre, tout autour de nous, un champ de détritus, avec des résidus de gamelles, de pots de confiture, des bouteilles vides, des viands, des paquets de casse-croûte pas entamés. Frédéric, même nous sur le terrain, par rapport à toutes les descriptions, t'imaginais ça comment, toi ?
Moi, j'imaginais ça beaucoup plus grand, beaucoup plus dégagé, moins touffu, moins obscur. En plus, les schémas qui avaient été donnés par les militaires faisaient état d'un cratère parfaitement ovale. Puis on se rend compte que c'est une espèce de cuvette bizarre, c'est assez curieux. Puis en plus, c'est un vrai dépotoir.
Et là, il reste le tout.
Les paniers tressés des porteurs de thé.
Frédéric Fillot au journal Libération.
Alors, je m'approche un peu là. Tu as le droit d'y rentrer toi dans cette grotte.
Ah, si j'étais là.
Tu étais là toi. Tu étais quoi? Tu étais porteur de thé?
Non.
Tu faisais partie du groupe des ravisseurs?
Oui.
Oui? Comment ça se fait que t'es encore là?
C'est vrai.
Mais les gendarmes ont su que tu faisais partie du groupe des ravisseurs?
Ouais.
Et ils t'ont pas arrêté?
Non, j'ai réussi à me sauver.
Toi, tu étais à quel endroit? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'étais au poste numéro 1, là.
Ouais.
Dans l'entrée. Il y avait la seconde 2.
C'est-à-dire que toi, tu étais... Tu faisais partie des gardes, quoi, qui montaient la garde.
Ouais.
T'étais armé, qu'est-ce que tu avais?
Un fusil.
Un fusil qui venait d'où?
Des immobiles.
Du groupe, tu es le seul survivant ou il y en a d'autres?
Il y en était trois. Mais les deux autres étaient un peu plus loin. Mais moi, je suis le seul de mon groupe. Le reste sont morts.
Et comment t'as réussi à te sauver, toi?
En rampant. Sauver comme ça. Sortir à la mer, au bout.
Et qu'est-ce que tu as vu?
Au début, à l'attaque, les gars qui étaient postés là-bas. Il y avait des gars qui étaient sans armes, ils sont rendus, mais ils ont tiré. Puis il y a un gars qui a voulu sauver, ils ont tiré. Il est mort. Puis il y a un gars, je suis sauvé avec lui, nous on devait être quatre. Mais le gars qu'on est sauvé avec, il est mort. Il s'est tué par l'hélicoptère.
Mais tu as vu l'hélicoptère tirer?
Oui. L'hélicoptère, il était là-bas, sur place. Il tirait, il faisait un cercle, tout ça. C'était balayé.
Et il tira avec quoi l'hélicoptère? Tu as vu l'arme qu'il y avait dedans?
Je crois que c'est à 52, je crois.
C'était comment? C'était sur un pied? C'était...
Ouais, c'était sur un pied à côté de la porte.
À côté de la porte?
C'était comme ça.
C'est-à-dire qu'il était en biais, il volait en biais. Ouais. Et la porte donnait sur le bas?
Ouais. Il tirait. Il faisait un cercle avec l'arme. Il faisait un cercle. Balayé, tout ça.
Et ceux que tu as vus se faire tuer sans armes, comment, dans quelles conditions ça s'est passé?
Ils sortaient de la grotte. Ils étaient en train de... Ils faisaient leur sieste, quoi.
Ils dormaient?
Ouais. Et après, ils se sont levés, ils étaient étonnés de... Ils se sont rendus. Ils ont tiré. Il y en a qui étaient morts.
Ils se sont rendus, c'est-à-dire qu'ils avaient les mains levées?
Ouais. Les mains levées. Puis ils montaient. Ils montaient là pour aller se rendre. Puis eux, ils arrivaient de là-bas. Ils ont tiré.
Alors qu'ils n'avaient pas d'armes?
Ils n'avaient pas d'armes.
Et alors, quand tu es arrivé ici, toi, quand tu étais là, qu'est-ce qu'il y avait comme ambiance? Comment ça se passait avec les otages? Vous parliez avec eux?
Avec les mobiles, c'était bien. Ils dormaient là. Au début, ils avaient les menottes à la main. Mais après, ça y est, on les a tirés les menottes. Ils s'amusaient, on jouait aux cartes avec eux. Et ils comprenaient la situation, quoi.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient, justement, les bobines? Qu'est-ce qu'ils racontaient?
Ils racontaient leur vie, tout ça. La situation en ce moment.
Et qu'est-ce que... Tu te souviens un peu des discussions que vous aviez ensemble avec eux?
Qu'est-ce qu'il disait? Il disait pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous avez pris en otage, non?
Non, il comprenait. Nous, on en voulait. On voulait une chose.
Enfin, quand même, il y a eu quatre de leurs camarades qui ont été tués. Ils devaient pas rire quand même beaucoup.
Ah ouais. Ça, ouais. C'était pendant l'attaque à la gendarmerie.
Oui.
Ah, mais ça, j'en sais pas.
Mais, oui, mais ceux qui étaient là, c'était les camarades des quatre qui ont été tués à ce moment-là. Et ils en ont parlé, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Non, de l'attaque à la gendarmerie, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont rien dit.
Et ils étaient couchés dans un espace qui fait, là, on est dedans, c'est-à-dire que moi, je suis à genoux pour l'instant, et en étant à genoux, j'ai quasiment la tête qui touche la paroi. Autour de moi, des détritus, des lianes qui descendent et s'enfoncent dans le sol. Et là, donc, oui, effectivement, c'est un espace très, très restreint. Ça doit faire à peu près 6 mètres de long sur 3 mètres de large. Ils étaient tous allongés par terre, ou bien ils étaient assis, ou ils faisaient ce qu'ils voulaient?
Non, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils dormaient, ils jouaient aux cartes ici. Mais ils n'étaient pas tous ici. Il y en a qui dormaient dehors.
Dehors, devant la grotte?
Ouais, là. Ils mettaient une bâche, puis ils dormaient. Il y en a qui dormaient ici. Le procureur, il dormait là. Comme ça. Là.
Et le gordu, il dormait où, lui?
Lui, il a dormi seulement une nuit, seulement avec nous. D'après, quand il est parti pour les négociations, là, il n'a plus dormi ici.
C'est-à-dire que vous l'avez libéré tout de suite, lui?
Ouais. C'est-à-dire pas libéré pour... Non, l'a libéré, c'était pour les négociations. Puis quand il est parti, il n'est plus revenu. Il nous contactait seulement par radio. On l'avait par radio.
Et tu avais entendu parler de l'histoire de l'hélicoptère qui devait arriver avec des journalistes, une équipe de journalistes?
C'était nous qui avions demandé. On avait demandé... Antenne 2.
Et quand vous avez entendu l'hélicoptère arriver, là, vous croyez que c'était Antenne 2 ou vous croyez quoi?
Ouais, nous, on croyait que c'était l'Antenne 2. On n'était pas prêts. On était surpris après d'entendre les coups de feu.
Alors là, pour descendre à l'intérieur même de la grotte, là, cette fois, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que, ouais, c'est carrément l'escalade, là. Bon, là, j'arrive maintenant. Une énorme stalactite avec laquelle je prends appui. Je suis à peu près 3 ou 4 mètres plus bas, en contrebas. Alors, qui est-ce qui était là, alors? Qui était là?
C'était les otages, les GIGN. Les GIGN étaient là.
Ah, parce que vous aviez séparé les gendarmes,
oui,
et le GIGN.
Oui, on les a séparés.
Et ils étaient combien, ceux du GIGN?
6.
Et pourquoi vous les aviez séparés?
Je sais pas. On a pensé qu'ils étaient un peu trop dangereux.
Ouais.
Ils parlaient rarement, ils souriaient pas.
Alors que les autres vous parlaient, souriaient?
Ouais. Et on s'entendait bien avec eux.
Mm-hmm. Pour continuer à décrire un peu les lieux, là donc, je suis descendu de 3 mètres le long d'une liane. Une entrée très étroite, donc une première grotte supérieure où étaient les gendarmes. On descend et on s'enfonce, on est là maintenant à 4 ou 5 mètres en contrebas, dans une autre grotte plus grande, qui doit faire à peu près une douzaine de mètres de long, sur 6-7 mètres de large, quoique ça doit continuer dans le fond là-bas, non?
Mm-hmm.
Ouais, donc c'est beaucoup plus profond, effectivement. Avec des trous de ramification, je vois un petit peu de lumière assez loin, une quinzaine de mètres, donc ça doit effectivement être beaucoup différent. Ça sort de l'autre côté, oui.
Il y a un autre trou de côté, ça sort, là.
Et alors les pistolets, tu les as vus, toi?
Non. Moi, j'ai entendu cette histoire, mais... Je sais pas. Je sais pas comment elle a fait pour atterrir ici.
Est-ce que tu sais si Alphonse a essayé de tirer sur les otages?
Ah, ça, je sais pas.
Tu as vu quelqu'un d'entre vous retourner les armes contre l'intérieur de la grotte?
Non. Non, je crois pas.
Et Alphonse, tu l'as vu, toi, après, quand il est sorti de la grotte, tu l'as vu vivant, toi?
Non.
En montant du fond de la grotte, ce ravisseur en cavale continue à me raconter, et à mon grand étonnement, sans du tout me demander l'anonymat.
Comment t'appelles-tu?
Et moi? C'est la roi.
Comment?
Zo. X-O-L-A-W-A. Zolawawa.
Il y a longtemps que tu es indépendantiste, que tu as envie de faire partie de la lutte?
Oui.
Quel âge tu as?
19.
Et pourquoi tu avais envie de faire partie de cette lutte?
Ben, pour faire montrer qu'on existe encore.
Est-ce que tu t'es rendu compte à un moment donné que ce que vous faisiez était grave et qu'on risquait à un moment de vraiment tous vous prendre comme ça s'est passé?
Oui. Nous, on avait décidé que... Enfin, on savait. On savait qu'un jour ou l'autre, ça va finir comme ça.
Et vous aviez pensé entre vous, vous aviez discuté entre vous de libérer les otages, peut-être?
Oui. Mais c'est ce qu'on voulait faire. Si jamais l'antenne 2 arrive, ben, en repartant, il repart avec un otage. On va libérer un otage, le plus vieux.
Tu te souviens comment il s'appelait?
Ah non, je ne me souviens plus. Alors un soir, on montait la garde. Et puis je suis descendu ici. J'ai entendu pleurer. Alors arrivé ici, j'ai vu le vieux. Il y avait un de mes camarades, il est venu aussi. Et on discutait avec le vieux. J'ai demandé à le vieux, pourquoi tu pleurais? Il m'a répondu, c'est la première fois qu'il allait pas assister à l'anniversaire de sa fille. Alors avec ça, on a discuté avec Alphonse pour le libérer, quoi. C'était le premier otage à le libérer.
Et Alphonse, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a répondu oui.
Et il est venu discuter avec lui, Alphonse?
Oui.
Elle lui a expliqué qu'il allait être libéré?
Oui. Enfin, non, on voulait lui faire une surprise. C'est-à-dire que si jamais l'antenne 2 il arrive, alors on discute avec l'antenne 2. Puis quand les journalistes vont repartir, ben, il repart avec le vieux. On voulait lui faire une surprise, quoi. Ça...
Et les autres?
Ben, les autres, petit à petit, on va libérer petit à petit. Suivant les négociations.
Ce que vous vouliez, vous, c'était faire parler de vous.
Ah oui.
Et tu avais discuté un peu avec les autres, avec les chefs de la bande?
Ah oui.
Et alors, de quoi vous discutiez ensemble? Qu'est-ce qu'ils disaient?
On discutait de... Enfin, de tout ce qui nous allait arriver. Si ça marche bien. Si on sortait d'ici libre... On fera après les règlements de compte avec les indicateurs.
Vous aviez l'intention de continuer à vous battre et de continuer à prendre les armes?
Oui.
Mais vous étiez vraiment déterminé à aller jusqu'au bout de la violence?
Non. Enfin, non. Nous, ce qu'on voulait, c'est... Enfin, c'est... Comme vous chavirez le gouvernement. Le gouvernement de...
Il y en a à l'intérieur du groupe qui avait peur de temps en temps, en se disant jusqu'où on va?
Ben oui, parce que il y a des camarades qui ont commencé à se décourager. Ils disaient qu'ils allaient partir. Alors nous, on venait pour les remonter le moral, quoi. Enfin, on les a pas retenus, on les a dit si vous voulez partir, vous partez.
Et il y en a qui sont partis?
Non. Ils se sont décidés à rester ici, à mourir ici. Parce qu'on savait qu'on n'allait jamais sortir de ce trou. On a décidé de rester là. S'il faut mourir ici, ben on reste là.
Et tu crois qu'ils sont morts pour quelque chose, les 19?
Oui. Je dis qu'ils sont morts pour faire avancer notre lutte. Puis, c'était plus trop. C'est la première fois qu'il y a eu 19. Surtout pour une petite île. 19 morts, c'est trop même.
Et toi, demain, si tu as à refaire la même chose, tu reprendras un fusil et tu repartiras?
Ben oui. C'est la lutte, ça ne s'arrêtera jamais.
Est-ce qu'il y en a qui étaient un peu plus entraînés que les autres militairement dans le groupe?
Oui. C'est-à-dire, savaient manier les armes, tout ça.
Et ils avaient appris ça où?
À l'armée. S'il y en a, ils venaient juste de sortir de l'armée. Alors, ils savaient manier une arme.
Tu en as entendu parler de quelques-uns du groupe qui auraient été s'entraîner ailleurs, à l'étranger?
Non.
Vous n'avez pas qui était parti ailleurs?
Non. En France, pour l'armée.
C'est tout.
Enfin, il y a mon camarade aussi qui était... faisait partie des stagiaires en Libye. Il est mort.
Il avait été stagiaire en Libye, lui, il était parti là-bas.
Oui, mais c'est pas un stagiaire pour apprendre à tuer, apprendre à manier une arme. C'est sur la politique, quoi.
Et il savait manier les armes, lui?
Non. Enfin, il était âgé, il a été à l'armée. Il sait manier une arme. Mais c'est pas ça.
Et qu'est-ce que tu penses maintenant? Qu'est-ce que tu as dans ta tête?
Ben, rien.
T'as peur?
Non.
T'as pas du tout peur?
Non. J'attends qu'il y ait des interventions, des mobiles. S'ils viennent me demander, je me rends.
Tu es prêt à te rendre?
Hein?
Tu es prêt à te rendre?
Oui.
Pourquoi?
Si jamais je me sauve, ils vont me tuer. Puis ça suffit, 19.
T'en as marre?
Ouais. Enfin, c'est pas que j'ai marre, mais... je pense à mes frères qui sont tombés. Alors, si jamais nous, on continue à se cacher comme ça... nous, on va ramasser, mais c'est la tribu aussi. S'ils vont faire pression sur la tribu, comme ils avaient fait l'autre fois.
Retourné à la tribu de Gossana, je rencontre Tom. Tom, c'est le pasteur. Il est le cousin germain d'Alphonse Dianou, le chef des ravisseurs.
Ce qui s'est passé a pas mal traumatisé les gens, j'ai l'impression, non?
Oui, beaucoup. Ça a beaucoup traumatisé les gens. Et c'est très dur à se remettre. Hein. Par exemple, là, ici, dans ma tribu, les vieux qui habitent juste en face de nous, là, ne sont pas encore rentrés. Ils restent un peu plus bas, donc pas peur de tout ce qui a été fait ici, les tortures, donc les militaires et tout. Et les autres personnes qui habitent un peu plus haut, donc à part la descente de tous les militaires, tout ça, ils sont tous partis. Et là, ils viennent seulement le matin pour donner à manger aux bêtes et repartir, rester ensemble à la chefferie, par exemple. Au niveau des enfants... là, hier, on a repris la classe. C'était vraiment le silence de mort pendant la récréation. Et en cours, ils ont la tête ailleurs, quoi. Hein. On a essayé par tous les moyens de les intéresser à ce qu'on essaye de faire avec eux. Mais il nous faut bien du temps pour s'y remettre, quoi. Hein. Ça a été vraiment un choc. Parce qu'on a, sur notre petite île, ça, on n'a jamais vu passer des choses pareilles.
Vous avez perdu ou vous avez gagné par rapport à cette idée que vous vouliez de montrer une sorte d'indépendance, mais bon, ça s'est fait dans la violence.
Pour moi, ce n'est pas un échec. On s'est fait... ce que nous avons fait, eh bien, c'est vrai que c'est très dur pour nous, c'est une souffrance pour nous, mais on s'est fait entendre au plus haut niveau. Au niveau du gouvernement français, mais aussi au niveau international. Lors de l'enterrement, on a lancé aussi ce message, et je l'ai dit aussi un peu partout à tous les gens que je rencontre en tant que pasteur. J'ai rencontré les hommes politiques, les familles endeuillées, tout le monde qui sont un peu désemparés et découragés. Je leur ai dit... moi, je ne suis pas une femme, vous voyez, mais une femme qui attend un bébé. Il y a les souffrances de l'enfantement. Et pour moi, c'est ça. Et ça veut dire que l'enfant est vivant et il va naître. Donc ce n'est pas un échec pour moi, la mort de mon cousin Alphonse. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la lutte.
Dans une tribu de l'autre côté de l'île, un autre témoin dont l'histoire est troublante. Après avoir fait la coutume, c'est-à-dire l'échange de menus objets, il accepte de parler.
Votre fils s'appelait comment ?
Ukewen Serafin.
Il avait quel âge ?
Il a 22 ans.
Alors qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que vous avez vu ?
Moi, c'est d'après ceux qui sont, c'est-à-dire les gars qui sont venus, les renseignements qu'ils peuvent nous donner là. Mais c'est qu'ils l'ont vu là débarquer de la jeep et embarquer dans l'hélicoptère.
Comment il était dans la jeep ?
Assis dans la jeep.
Et il était blessé à quel endroit ?
Mais d'après ce qu'on nous a dit, qu'il s'est blessé c'est-à-dire soit dans une jambe ou dans les deux, hein, c'est tout. Hein. C'est-à-dire, ce sont les témoignages qu'ils ont pu nous dire à nous.
De qui vous avez eu des témoignages et combien vous avez eu de témoignages de deux gens qui l'ont vu ?
Trois. Et c'est des gars d'ici, de la tribu.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a vu donc à l'intérieur de la jeep.
De la jeep et puis embarqué dans l'hélicoptère.
Embarqué dans l'hélicoptère et vous l'avez revu dans le cercueil.
Dans le cercueil. Criblé de balles. Hein. Mais derrière la tête, là, et puis tout le corps, hein, mais tout le corps, là, c'est lamentable. Hein. Tout au début, là, c'est-à-dire jeudi soir, il y a 16 morts, et puis le lendemain, 19. Alors, d'après nous, ben, on a dit que peut-être le fils, il est parmi les trois, c'est-à-dire retrouvé aux alentours de la grotte. Là.
En fait, il n'était pas autour de la grotte.
Il n'était pas autour de la grotte parce qu'on l'a vu, là, machin débarquer de la jeep et puis embarquer dans l'hélicoptère.
Cette tribu minuscule, toute la famille est autour de nous, et peu à peu on s'aperçoit que la révolte fuse.
C'est pas pour rien qu'ils ont fait une action. Ça, il y a une stratégie qui a été. Bon, c'est le FLN, il n'a pas dit il faut aller faire ça. Mais c'est dans la logique de. S'il n'y a plus moyen de discuter sur une table, si c'est pas la violence seulement qu'on peut discuter, ben il faut dire ce qu'il faut. Nous, on n'a pas le choix. Hein. Ici, tout le monde est complice des mobiles, tout le monde est complice des ravisseurs. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont participé à la prise d'otage ? Mais ils sont là, puis il n'y a personne qui les dénonce. Alors qu'on est tout le temps en train de les chercher partout. Tous les jours, ils rencontrent les gens, là, mais il n'y a personne qui est là, qui a le courage de dire, voilà, c'est un tel qui a été là-bas. Ça veut dire que tout le monde est complice dans cette affaire. Moi, je dis, avant d'arrêter un complice ici à Yom, il faudra arrêter tous les gens de Gossana. C'est eux qui font à manger pour ceux qui sont dans la grotte là-haut. On est tous complices. Moi, je dis, le peuple kanak, il est complice de cette affaire-là. C'est une lutte, hein. Tout le monde est dedans. Hein.
Pourtant, il y a des informateurs. Pourtant, il y a des gens qui ont donné des noms. Les gendarmes n'ont pas pu avoir les noms tout seuls de ceux qui étaient dans la grotte.
Ah, mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis tout à l'heure. On ne peut pas dire que c'est un tel qui est indicateur, un tel est indicateur. Tout le monde est indicateur, à partir des grands chefs jusqu'au dernier des sujets. Tout le monde, parce que je vois mal un mec qui arrive de France, qui se situe quand même à 20 000 km, et du jour au lendemain, il a la liste de tous les ravisseurs, il a la liste de tous les gens de Rio qui se trouvaient dans les barrages. C'est pas normal, ça. En 84, c'était pas pareil. Je disais toujours aux jeunes l'autre jour, en 84, on incendiait les maisons. Par exemple, ce soir, j'incendie la maison pour l'autre. Ben, peut-être le lendemain, c'est à notre tour d'être incendié. C'était comme ça. Mais une maison, ça se reconstruit. Mais quand il y a 19 morts, mais là, c'est plus rigolade, ça. On ne reconstruit pas une vie, nous. On ne peut pas reconstruire quelqu'un qui est mort, déjà.
qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à réagir très violemment, qui demandent vengeance, qui n'acceptent pas ce qui s'est passé, qui n'acceptent pas les morts, qui n'acceptent pas les différentes versions qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là?
C'est sûr qu'il y a toujours risque de débordement. Il y a toujours risque de se faire emporter dans ce spirale de la violence. Mais je pense en général, au niveau des responsables, que moi aussi je suis responsable, nous essaierons de faire avec tous nos gens, en tant que pasteur aussi en tant que j'ai aussi mes idées politiques, nous essaierons de dire le message que je viens de le dire là tout à l'heure, que ça veut dire qu'il faut passer, par là pour être libre, mais il faut souffrir. Il y a de la souffrance, mais ça nous conduirait dans une impasse. Ça nous conduirait dans une impasse si nous rentrons justement dans cette spirale de la violence, parce que ça va être entre moi et mon propre cousin ou mon propre frère. Et là, on tape alors vraiment à côté de ce que nous voulons vivre, notre culture. Et c'est ça ce que nous avons toujours dit, que là, pendant 15 jours, là, et là encore, on a continué avec dans le cadre de mon église, de le dire ça aux gens. C'est que demain, le gouvernement français, la France, partira d'ici. On aura toujours des relations avec la France, mais c'est nous qui allons vivre dans le pays. C'est nous qui allons vivre dans les tribus. Et quelles vont être les relations? Comment nous allons envisager l'avenir demain entre nous, ici, en gardant tout ce qui nous est propre, ce que nous voulons. Mais c'est sûr que c'est très dur à faire à des moments où on a perdu un cousin, où on a perdu un fils. Tout le monde ne pense pas la même chose et c'est sûr qu'il y a toujours risque de débordement.
Plus tard, après maintes négociations clandestines, on apprend que trois autres preneurs d'otages se terrent en brousse. On nous y emmène de nuit. Là, je suis avec Pascal Stelletta d'Antenne 2 et Frédéric Filloux de Libération. Les trois que nous avons en face veulent rester anonymes. Le secret peut être levé pour l'un d'entre eux quand même, puisque c'est celui qui avait une balle dans le dos et qui a été arrêté le dimanche 29 mai. Josué Henring racontait tout ça 15 jours avant sa capture. Où est-ce que tu étais au moment de l'attaque ?
Bah, il y a l'attaque de moi, mon tournoi. Je me situe juste à l'entrée de la grotte.
Tu fais partie du groupe des ravisseurs?
Effectivement.
Alors, au moment où l'attaque a eu lieu, qu'est-ce que tu as vu?
Il y a eu une attaque où il y a quatre blessés. Pendant l'attaque, pendant l'assaut, il a vu quelqu'un tomber qui a été tiré de loin. Et une fois tombé, le gars, le GIGN, le mobile ou le militaire en quelque sorte, il est venu retirer sur le gars qui est tombé par terre.
Qu'est-ce que tu as vu d'autre encore?
Il y a eu Mignao Djiwa, une collègue qui a eu poste. Il a vu son collègue qui est en même poste tirer dessus.
C'est-à-dire que lui était en train de monter la garde, qu'est-ce qu'il faisait?
Pendant ce temps, lui tirait sur le puma. Et son collègue vient de se réveiller, son collègue de poste vient de se réveiller. Et il était là, sous le choc du sommeil, quoi, assis. Une fois tiré sur le puma, il a décidé de se retirer vers la grotte. Et il a recommandé à son collègue de garde de venir avec lui. Il était sous le choc, et il est resté là, et voilà qu'un gendarme est venu pour tirer dessus.
Il avait avec ses armes à la main ?
Non, il vient de se mettre tout.
Non, le gars, il n'a pas d'arme à la main, il vient de se réveiller, il est là assis. Tu es de près, quoi. Il t'a abattu de près.
Et que, comment tu en es sorti de toi ?
Dernière chance. C'est vrai, il y a un
Il a eu le temps de se retirer, de sauter carrément dans un trou. Et de là, il a vu une entrée, une sortie pour pouvoir sortir. Et c'est de là qu'il a pris le temps de s'enfuir.
À quel moment tu as été blessé, toi ?
C'était quand l'attaque allait se terminer. C'est là qu'il a pris.
Et où est-ce que tu as été blessé ?
Côté gauche.
Ouais, l'épaule gauche, côté omoplate.
Joshua a donc été transféré à Paris avec les autres ravisseurs. Les deux autres que vous allez entendre n'ont par contre toujours pas été à ce jour arrêtés.
Est-ce que tu faisais partie du groupe de preneurs d'otages ?
Oui.
Donc tu étais à l'intérieur de la grotte, toi ?
Oui, j'étais à l'intérieur. Mais au moment de l'attaque, j'étais en bas pour prendre le café, pour prendre le thé. Puis c'est là que ça a commencé l'attaque.
Et l'attaque a commencé de quelle manière ?
Moi j'étais à l'intérieur, puis j'ai vu l'hélico passer au-dessus. Puis moi je croyais que c'était le ravitaillement. C'était pour déposer à manger, quoi. Puis c'est là que j'ai vu que ça commençait l'attaque.
Pourquoi ? Parce que vous aviez déjà été ravitaillé par hélicoptère ou quoi ?
Ouais. Ça fait une semaine. L'hélicoptère il venait déposer à manger pour les otages.
Quand l'attaque s'est déclenchée, qu'est-ce que tu as vu ?
Là, j'ai vu l'hélico qui est tiré.
Comment est-ce que tu as réussi à t'échapper ?
Je suis sorti par un petit trou. C'est là que... Parce qu'eux, ils venaient de derrière.
Qu'est-ce que tu as vu, toi, précisément, au moment de l'attaque ?
Quand nous avons replié, je me suis introduit dans une petite grotte. Ensuite, je suis parti jusqu'au fond de la grotte. Il y avait les squelettes. J'étais resté auprès des squelettes.
Les squelettes de quoi ?
De nos ancêtres. Je me suis allongé à côté. Ensuite, j'ai entendu parler, j'ai dormi un moment. Il faisait noir. Je me suis endormi et quand je me suis réveillé, j'ai entendu le capitaine de commando, je crois. Il a dit à Alphonse, si tu sors avec ton compagnon, tu auras la vie sauve. Ça, il l'a répété plusieurs fois. Ensuite, je me suis rendormi.
Et tu as entendu des coups de feu après ? Tu as été réveillé par d'autres coups de feu ?
Non, je me suis rendormi. Mais je me suis réveillé par une grenade qu'ils ont lancée dans mon trou. Deux grenades, ils ont lancé.
Combien de temps tu es resté dans la grotte ?
La journée de l'attaque, plus une nuit. Et le lendemain matin, c'est comme si je sentais les vieux, mes ancêtres. Ils me disaient que c'est le moment de partir. Ensuite, je suis sorti et je suis parti.
Comment tu expliques qu'ils ne t'aient pas trouvé ?
J'étais dans le trou, au fond du trou. Mais il y avait une petite galerie dans le trou. Le trou n'est pas profond, mais juste dans le même trou, il y a un autre trou, quoi, mais plus petit. Je suis rentré par là.
Quand le capitaine du commando a dit à Alphonse, si tu sors, tu auras la vie sauve, est-ce que tu sais si Alphonse est sorti à ce moment-là?
Non, je ne pouvais pas savoir, j'étais à l'intérieur de la grotte.
Mais ça se passait tout près de toi?
Oui, ça se passait pour moi. Enfin, je ne le voyais pas, mais je les attendais.
Et Alphonse a répondu quelque chose?
Je sais pas, j'ai pas entendu.
Et l'hélico a tiré le premier?
Le puma a tiré le premier.
Par rafale ou quelques petits coups isolés?
J'ai vu celui qui tenait l'arme derrière, il tenait avec ses deux mains. Je ne sais pas si c'est un A-52 ou un arme moderne qui vient de le faire, pour placer sur le puma. Quand j'étais à l'intérieur de ma grotte, là, il y avait des petits... Parce que moi, je me connais pas en arme. J'ai vu les flammes, plusieurs flammes jaillir de la grotte. À l'intérieur, dans les brousses, là. Vous avez vu la grotte, il y avait des flammes qui jaillissaient.
Elles jaillissaient de l'intérieur de la grotte?
Pas dans la grotte où j'étais, mais dans la grande grotte.
C'est-à-dire que les types qui vous attaquaient avaient des lance-flammes?
Parce que j'ai vu les flammes.
Grandes flammes?
Des grandes flammes.
Toi, tu étais chef de groupe?
Non, j'étais pas chef de groupe.
Non, tu étais à l'intérieur d'un groupe. C'est-à-dire qu'il y avait différents groupes.
Dans mon groupe, il n'y a pas de chef. On est tous des chefs.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez alors? Ton groupe était chargé de quoi?
La sécurité en dehors de... On était posté au cas.
Et alors, comment vous répartissiez les tâches?
On se divise. On était 7. Je suis le seul survivant de mon groupe. Le reste a été assassiné.
Tu as vu quand ils sont morts?
Non, mais j'ai vu le tombeau de mes frères. Parmi eux, il y avait ceux de mon groupe.
Cette grotte elle-même, tu disais tout à l'heure que tu étais resté caché avec le squelette des ancêtres. C'est une grotte qui, pour le peuple kanak, a une histoire particulière.
Pour nous, il s'est ouvert à cette grotte. C'était la grotte où nos ancêtres se réunissaient pour faire la guerre. C'était un trou de guerre.
Vous aviez choisi cet endroit aussi symboliquement pour ça?
On n'a pas choisi cet endroit. Peut-être c'est les vieux qui nous ont guidés jusqu'à cet endroit. Tout ce que je peux vous dire. Dans cette grotte, il y a des lois à respecter.
Lesquelles?
Vous pouvez couper là? Oui, Jean-Luc, vous pouvez couper.
Alors c'est pas pour protéger un secret terrible qu'ils m'ont demandé de couper l'enregistrement, mais simplement parce qu'on n'explique jamais un tabou dans la culture kanak. C'est Tom, le passeur de Gossana, qu'on va retrouver maintenant, qui m'avait expliqué ça.
Je suis dans mon lagon d'Ouvéa. Je nage, j'essaie de profiter de mon île et tout ça. Je nage et voilà que quelqu'un veut me noyer dans mon lagon. Et c'est par réaction de survie que j'ai moi aussi noyé l'autre. Je le regrette, mais moi je veux nager chez moi. Et c'est une réaction tout à fait normale. C'est comme ça que je pense que Alphonse a fait, et les autres camarades.
Ici, à Ouvéa, il n'y a quasiment que des Kanaks. Mais tous ne sont pas du même bord politique. Il y en a d'un côté et il y en a de l'autre. Mais est-ce que vous vous retrouvez à des endroits?
Oui, il y a des terrains où on se retrouve, par exemple sur le terrain de l'église, sur le terrain de la culture. C'est-à-dire quand il y a mort, quand il y a mariage. Donc normalement, il y a les relations qui se font. Par contre, au niveau politique, alors là, c'est là où ça se... Vraiment, il y a une coupure. Il y a vraiment une coupure. Donc c'est... D'après moi, c'est voulu. C'est voulu pour nous mettre les uns contre les autres. Et là, si la culture est très forte, si l'église est très forte, c'est toujours ces deux terrains où on peut avoir des relations et c'est un terrain d'entente, quoi.
On est là sur Ouvéa, c'est une chose, mais il y a aussi le reste, il y a la Grande Terre, il y a les autres îles, et il y a des extrémistes de part et d'autre. Il y a des Kanaks qui veulent le départ de tout le monde, et il y a des Caldoches qui sont prêts à prendre les armes et pour rester là. Ça, faut pas l'oublier non plus.
Ces gens-là, ils vont pas aller vivre ailleurs. C'est des gens qui ont vécu dans le pays. Et ça, on a des jours donc, à vraiment avoir la tête froide pour essayer de faire le pont entre les communautés et essayer ensemble de dire comment va être la société de ce pays demain. Comment il faut arriver à vivre ensemble. Mais bien entendu que c'est très facile si je le dis comme ça. Mais dans la réalité des choses où il y a des intérêts personnels, où il y a tout ça qui joue, ça ne va pas être quelque chose de facile. Mais il faut bien relever le défi, parce que c'est un défi pour notre peuple. Comment il faut vivre ensemble demain.
Passerelle pour OUVA. Passerelle, c'est une émission de Dominique Agnel et Jean-Luc Blin, réalisée par Maryse Friboulet, mixage aujourd'hui Daniel Contessous, avec la collaboration technique de Sony pour cette première passerelle en enregistrement numérique et également l'aide technique du TA. À la semaine prochaine, au revoir.